Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 25e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2005, jour de la Saint-Augustin. Bonjour, pas de blague aujourd'hui, un petit plantage pour commencer. Hein, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il y a
À
eu une
peine, à
petite
peine.
coupure
Non.
d'électricité, on va dire. Hein.
Bon.
Donc alors aujourd'hui, après une longue absence de presque 2 mois, nous allons faire une émission avec une nouvelle formule. Faut se faire. Ah! Ah!
Ah.
Merci. En plus, vous êtes au courant, vous.
Ouais, il y a un dessert.
Oui, formule avec dessert. Pour le même prix. Donc, cette nouvelle formule va se passer. Il y aura un débat qui durera à peu près la moitié de l'émission. Et après, il y aura des chroniques comme avant, mais plus petites. Qui
Des
n'auront pas.
chroniquettes,
Voilà,
t'as dit.
qu'on a appelé des chroniquettes. Donc, bon, on va essayer tout ça. Vous pourrez nous dire si c'est bien ou pas. Ou pas.
Ou pas.
Alors, avec nous, pour cette nouvelle formule, nous aurons un nouveau cray.
Le créneau est
Le cray
arrivé.
nouveau est arrivé.
Ouais.
Il fume plus. Il a un
Non.
corps d'athlète. Il va quand même toujours au bistrot.
Oui, de temps en
Hein,
temps, hein. Presque tous les midis d'ailleurs.
il boit pas une goutte, parce qu'une goutte, c'est pas assez.
Et voilà.
Il y aura aussi avec nous une nouvelle Ariane qui était déjà nouvelle la dernière fois. Hein? Vas-y, tu peux parler dans le micro, arrête de fumer. Il y aura aussi avec nous la nouvelle Béa qui regarde toujours autant la télé.
Oui, donc rien de nouveau.
Voilà. Il y aura aussi un nouveau Numa en Marcel. Il a arrêté les chemises à carreaux et à rayures.
C'est l'été.
Voilà, ouais, bah oui, et l'été.
Il fait chaud.
Voilà, et c'est pas encore l'été, c'est le printemps.
Oui, et on se fait chier comme en été.
Voilà. Et il y aura une nouvelle Flo, enfin j'espère.
Non, c'est toujours cinéma. Hein. Oui, mais peut-être qu'elle
Toujours
causera moins.
cinéma, oui, mais voilà, oui. Un peu moins virulente.
Je vais pas faire. Hein. Je peux parler très vite.
C'est vrai. On a déjà vu. Donc alors, on va expliquer avec un petit peu plus de détails quelle est cette nouvelle formule, notamment pour cette fois-ci. Donc il va y avoir un débat. Un débat qui va être animé par Béa, parce que ça rime.
Ouais, on va essayer.
Voilà. Et donc ce débat, cette semaine, va traiter autour d'une question qui est, Béa, vas-y.
Débat ou décollant. Qui porte sur le sujet sur les vieux. Le troisième âge, si vous préférez, ça fait moins vulgaire.
Ouais, ou
Voire quatrième
les
maintenant.
seniors.
Les seniors, ouais, c'est plus
Voilà.
joli.
Donc tu
Les
peux commencer
seniors.
comme on a un petit
C'est
souci
politiquement
technique, à moins que
correct.
quelqu'un veuille nous faire un jingle de transition, Numa.
Tut.
Voilà, c'est
Pas
parti.
d'un Ok. Donc, les vieux, pourquoi? Parce que la France est un pays de vieux. Il y en a de plus en plus, tout simplement parce qu'on vit de plus en plus vieux. Et la canicule de 2003, et donc tout récemment la journée de solidarité, enfin pour certains, donc travailler le lundi de Pentecôte, nous rappelle que nous avons des vieux. Et moi je me suis juste demandé, enfin je me suis juste dit, malgré cette journée de solidarité, qu'on les oubliait un petit peu, assez curieusement, parce que donc ils sont nombreux, c'est une population importante qui vote, qui vit, qui a des enfants, qui a des petits-enfants, qui a travaillé ou qui travaille toujours. Et donc je me demandais si c'était que mon impression ou si elle était partagée, le fait qu'on les oublie un petit peu, qu'ils soient pas tellement dans le paysage déjà économique, que des marchés s'intéressent à eux, qu'on fasse des choses pour eux. Moi je m'en étais fait la réflexion à la télé, où je trouve que il y a pas beaucoup de programmes qui ciblent les vieux, alors que contrairement à contrario, il y a beaucoup de sujets qui ciblent les jeunes. Alors que pourtant, ceux qui ont le plus de temps finalement pour regarder la télé, c'est quand même bien Déjà, les et vieux. c'était pour ça
Et
que je m'étais fait cette
en théorie, ceux
réflexion.
qui ont le plus de sous aussi.
Mais voilà.
Pour regarder la télé.
Pour,
Oui,
et
mais
pour,
les
non, mais
vieux.
pour dépenser. Donc, et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui les cible directement. On a l'impression que ça fait pas bien. D'être d'accord avec le troisième âge ou de s'intéresser à eux, et toujours en comparaison avec les jeunes, où on aime plaire aux jeunes, alors que c'est pas eux qui décident, mais on ne s'applique pas à plaire aux vieux, qui Ouais.
pourtant ont justement toute l'expérience.
Moi, je sais pas si j'ai l'impression qu'en fait, les vieux, ils se mélangent avec la classe d'âge supérieure. Si tu prends le cas de la télé, pour moi, les feux de l'amour, c'est un truc pour vieux.
Mais bon, en disant que c'est pour les vieux, je pense à la ménagère de 30 ans qui est fan des Feux de l'amour, elle doit être vachement contente de m'entendre dire ça. Mais pour moi, si tu veux, c'est typiquement le genre de truc pour vieux.
Tout à fait. Mais c'est vrai que les chaînes, en présentant ce genre de programme qui passe l'après-midi, ciblent, ils le disent, ils ciblent la ménagère de moins de 50 ans. Ils ne parlent jamais de celle de plus de 50 ans ou, et de son mari. Ouais, et pourtant, les pubs qui passent l'après-midi sont essentiellement pour les fauteuils Everstill, pour les machins qui aident à monter les escaliers, pour les couches... anti-fuite, ouais. Etc., etc.
Mais c'est
caché, ça ne fait pas bien.
Oui, voilà, c'est caché, mais disons qu'on s'aperçoit que les industriels s'y intéressent quand même, ils savent qu'il y a du pognon à prendre, parce qu'ils font quand même des pubs, mais dans les médias, peut-être qu'on le cache un petit peu, parce que c'est vrai que des couches pour les fuites des personnes du troisième âge, c'est très fun.
Les couches pour les bébés, ça gêne personne, même à l'heure où on mange. Donc je comprends pas. Alors par exemple, j'ai demandé à Ariane de regarder, puisqu'on parle des médias, la presse. On sait qu'il y a une presse, parce que la presse a des cibles. Il y a la presse pour jeunes, il y a la presse pour les mecs, la presse pour la femme, presse bagnole. C'est toujours très spécialisé. Donc, il y en a qui existent pour les vieux.
Alors, il existe effectivement un certain nombre de magazines pour les vieux, enfin, pour les
personnes
du troisième âge, pour les seniors.
Oui, mais c'est pas péjoratif, vieux. Bon.
Rustica, c'est un truc de fleurs, c'est pour les vieux.
Le premier qui me vient à l'esprit, effectivement, c'est Notre Temps.
Oui.
On en trouve, hein, faut pas croire, il n'y a pas de rayon marqué effectivement presse troisième âge. On doit partir du principe que ce sont les femmes qui lisent beaucoup plus ce genre de presse, donc on trouve ça au rayon presse féminine. Ce sont des magazines en général assez généraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas que des trucs sur les vieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de publicité à l'intérieur et des articles de fond qui finalement sont effectivement sur le jardinage. Sur comment occuper votre temps, sur les voyages, sur des choses comme ça. Mais il y a aussi des articles sur comment régler votre ménopause ou votre andropause, comment...
Oui, donc la volonté de la rédaction de cette presse-là est donc bien de cibler les personnes plus âgées, mais en se cachant de vouloir le faire. Moi, c'est l'impression que ça me donne à chaque fois. Parce que où sont-ils situés dans les kiosques? Effectivement, ils ne sont pas... On voit effectivement, quand on arrive dans un kiosque ou dans une maison de la presse, ce qui nous saute aux yeux en premier, c'est plus les magazines pour les jeunes qui sont très flashy et plus les magazines de seins, hein, pour être poli.
Effectivement, en matière...
Cela, on les voit, il n'y a pas de souci. Et ben, les autres,
aussi,
ceux pour les vieux, se repèrent quand même relativement moins bien, enfin pour le troisième âge, se repèrent moins bien dans le sens où ils ont des couvertures qui ressemblent plus à Rustica Magazine ou Chasse, Pêche et Nature, qui sont des magazines qu'il faut de toute façon chercher dans les kiosques. Donc
c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est voulu.
Mais bien sûr. Mais évidemment que c'est voulu. C'est voulu. Évidemment que c'est voulu. Parce qu'à partir du moment où tu détermines un produit comme étant destiné au public vieux, les vieux n'en voudront pas parce qu'ils ne veulent justement pas se saisir d'un produit qui leur est.
Mais d'un autre côté, si tu écoutes les personnes âgées avec la vie que ça représente, la vie elle change à partir d'un certain âge. Dire on fait plus les choses de la même façon. Quand on les écoute, ils se plaignent quand même justement de ne pas être
mis à l'écart.
Ils ont le droit en France en tout cas d'être complètement contradictoires entre ce qu'ils affichent et ce qu'ils pensent peut-être même, et puis leur comportement réel, ça peut pas de contradiction.
C'est
le cas. Ils sont en complète contradiction avec ce qu'ils disent, et puis, enfin, en tout cas, s'ils disent ça, et puis la réalité, c'est évident, de toute façon, si tu affiches un magazine comme étant officiellement du troisième âge,
j'en suis pas persuadé.
Même si c'est pas vrai, c'est le raisonnement que fait en tout cas.
Les pubs sur les seniors qu'on voit aux heures de grandes écoutes, c'est des seniors qui sont fun, qui sont encore en bonne santé, ou alors qui sont fun, comme le papy là, qui mangeait des pommes, en fait, qui avait plus de dents. Mais qui utilisait un shaker pour boire du jus de pomme, je sais même plus pourquoi elle était cette pub.
Oui.
Enfin voilà, il y a un côté soit rigolo, en même temps ils restent fun parce que ça faisait genre vieux surfeur qui a gardé l'esprit jeune, ou alors c'est sur des produits de beauté avec des femmes d'un certain âge qui sont encore.
Ou effectivement dans la Redoute on vend des blouses sur des jeunes mannequins.
C'est pas les vieux qu'on cache en fait, c'est la vieillesse parce que les vieux on voit partout. mais on a tendance à les montrer comme étant une population qui peut bénéficier d'un certain temps de vie après avoir pris sa retraite. Donc on propose des activités qu'on ne pouvait pas avoir avant. On propose des liftings, on propose du maquillage, on propose
mais justement, mais voyages. Il est grand temps de justement de leur proposer ce genre de choses. On va finir par passer la moitié de sa vie à la retraite.
Il y a un marché qui est quand même énorme.
Et ben moi je trouve qu'il n'est pas exploité.
Non,
parce qu'il y a des tas de choses.
C'est pas parce qu'il n'est pas exploité. Moi, je pense, tu sais, c'est parce que les choses changent tout doucement. Parce que si tu reviens quelques années, je suis même pas sûre que toute la presse dont on parle là existait. Moi, je garde une image de vieux qui avait à Bourgueil, qui était, mais vraiment les petits vieux qui sortaient, qui passaient leur journée. Ça nous faisait beaucoup rire parce que tous les soirs, quand on rentrait de cours, ils étaient là, ils avaient mis leurs deux chaises dans la rue et ils étaient là plantés et ils ne bougeaient pas de leurs chaises.
On reste sur un cliché.
Voilà, mais ça ne se voit plus. En fait, ça évolue tout doucement quand même.
C'est peut-être parce que ça évolue.
Et effectivement, oui, moi je pense que pour le coup la presse tout ça en fait ça va évoluer
par exemple,
tout doucement.
Il y a des seniors qui voyagent, on en parle très très peu. Il y a des boîtes de nuit spécialisées pour les seniors qu'on appelait des thés dansants, voilà. Mais qui maintenant sont plus forcément des thés dansants.
Il y a
des tas de choses
cachées.
Et c'est vrai que ça reste pas très très fun. Et je pense que quand on sera à la retraite, on va découvrir des choses extraordinaires. Ça se trouve, ils sont encore plus trash que nous.
Et en plus, justement, pourquoi vouloir faire moins vieux? Pourquoi vouloir faire fun? Vivons avec notre âge, vivons avec notre temps. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est.
On a, je crois, de plus en plus peur de la mort et on veut de plus en plus se cacher le
et
fait
de la maladie.
Voilà, et bien justement, le mot est lâché. Moi, je pense qu'effectivement, on cache beaucoup tout ce qui est directement lié à la vieillesse et ce qui pourrait les intéresser. Parce qu'effectivement, vieillesse, c'est synonyme de mort. Enfin, en tout cas, elle est toute proche. Je crois que c'est beaucoup pour ça. Parce que dire que l'avenir.
Je suis pas sûr qu'il y ait que ça.
Mais
il faut quand même pas oublier nos vieux.
Paradoxalement, c'est dur. Je trouve qu'on parle énormément de la mort.
C'est surtout la maladie.
Ou la décrépitude.
La décrépitude, je pense.
On vit de plus en plus vieux, mais de mieux en mieux aussi.
Je pense que la mort, on s'en branle. Oui, la plupart des gens s'en foutent, mais
je pense que c'est pas les symboles de la mort, c'est les symboles de la décrépitude. Comme le disait Ariane il y a 5 minutes, elle disait par exemple, ou c'était toi Flo, qui disait que les blouses dans la Redoute étaient vendues, c'était Béa,
oui, par des jeunes,
étaient vendues
sur des mannequins.
Sur des mannequins. Mais de la même façon, les vêtements pour hommes ou pour nana, même, ils sont présentés dans des corps de rêve qu'on n'a pas non plus. On monte pas les vieux dans leur décrépitude, oui. Mais on ne monte pas non plus les
fringants obèses sur les obèses. Ouais.
Les mannequins seniors, ils ont quand même encore largement.
Donc, à mon avis, c'est plus un critère.
Le vieux grisonnant, mais encore un peu avec. Enfin voilà, ils sont encore très 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 classe et très très chic. Et le vieux grisonnant, d'ailleurs.
C'est clair,
il y a une pub dans le métro là qu'on voit sur toutes les portes de métro en ce moment là où tu vois un vieux avec une jeune et puis une vieille avec un jeune. On voit ça.
Moi, j'ai l'impression que ça vient et mais j'ai l'impression que la canicule justement n'y est pas pour rien. Ça nous a rappelé qu'on avait des vieux et je trouve que depuis.
Mais moins depuis.
Tu sais, je voudrais juste une petite précision. La canicule de l'été 2003 a tué beaucoup moins de vieux qu'on ne pense. Il y a eu beaucoup moins de décès de personnes âgées en 2003 qu'il n'y en a eu l'année d'avant. Donc effectivement, je pense que.
Oui, mais elles ont été concentrées en un mois. Le chiffre était quand même énorme.
Mais c'est.
Et en plus, ce sont des personnes âgées qui sont mortes. Alors qu'elle n'aurait pas dû mourir comme ça.
Et pas tout de suite.
Oui, voilà, pas tout de suite.
Ça a un peu décalé.
Puis c'est surtout que personne s'en est occupé. Le problème est là. Après, on peut parler
alors,
de chiffres ou quoi que ce soit. Mais
alors
le problème,
maintenant,
c'est qu'il s'est passé quelque chose, on s'en rend compte. On va essayer de faire des choses. Enfin, la société, tant mieux. Mais c'est pas la peine de faire des débats sur les chiffres. Il y en a eu plus, moins, une époque où...
Ça a quand même été concentré sur un mois. C'était quand même assez énorme. Et ça n'aurait pas dû arriver dans un pays comme le nôtre. Parce que justement, on est un vieux pays européen avec des personnes âgées. On le sait que la France vieillit. Et on a eu 30 ans pour s'en occuper. On a l'impression qu'on découvre.
Oui, mais je sais pas si tu veux, parce qu'en 76, on a entendu parler d'autant de morts. Enfin, je sais pas, personne. Est-ce que quelqu'un a regardé les chiffres?
Parce
qu'en 76,
on en a. Justement.
Voilà, mais moi, je me suis dit. Et si tu veux, pour le coup, j'en suis arrivée à me demander si les vieux, nos vieux maintenant, qui étaient jeunes à ce moment-là, si tu veux, ont pas perdu les réflexes, les anciens réflexes, bêtes et cons.
Mais c'est peut-être aussi parce que la médecine a fait des progrès. Il y a des gens qui étaient encore vieux. vivants dans un état où en 76 ils étaient morts de plus belle lurette. Il y a, des gens beaucoup plus fragiles du fait des progrès de la médecine.
On se maintient beaucoup plus vieux, c'est-à-dire qu'on est fringant beaucoup plus longtemps. Autrefois, tu arrêtais de travailler en général. Tu mourrais pas bien longtemps après, assis sur une chaise entouré de ta famille. Ouais. Maintenant, tu prends ta retraite, t'es encore fringant, tu fais un tas de choses, mais les vieux, effectivement, on les cache, parce que je peux te dire que passer ne serait-ce qu'une demi-heure dans une maison de vieux, ils sont pas bien beaux.
Ah, regarde, c'est pas
certes,
vrai.
Ils sont en vie, mais enfin, ils sont, ce qu'on disait tout à l'heure, grabataires, c'est la décrépitude complète. Ouais. On les maintient en vie.
Mais justement, pas tous, parce que moi, j'en vois tous les jours des vieux qui sont plus ou moins bien. La majorité, même s'ils sont malades, eh ben, ils sont bien. Ils sont encore très bien.
Mais ceux qu'on cache le plus, dont on ne parle pas dans les médias et ailleurs, c'est surtout ceux justement qui sont dans un état de décrépitude absolue ou pas loin. Les autres, ceux qui sont encore en bon état, ne serait-ce que les chefs d'État et autres, notamment en France, où on aime bien les prendre vieux.
Oui,
bien mûrs.
On a quand même pour certaines choses une culture des vieux, ça c'est vrai.
Et là, on ne dit pas d'abord il est vieux, il y a d'autres adjectifs qui viennent à l'esprit.
Pour moi, vieux n'est pas péjoratif, je le répète.
Les personnes âgées malades.
Mais alors justement, c'est marrant parce que il y a un marché à prendre. Ma première réflexion, elle était partie de là. C'est que, effectivement, il va falloir en faire quelque chose puisqu'on est une société qui ne s'en occupe pas. Comme d'autres cultures où ils gardent contrairement à d'autres cultures où ils gardent le troisième âge chez eux. Il y a un marché énorme à prendre sur les maisons de retraite et tout ce qui en découle.
Ça se fait
tout doucement. Il y a un mec qui l'a fait, il gagne un fric fou.
Oui, voilà, ça commence à se faire, ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux marchés parallèles. Il y a un marché, effectivement, qu'on ne voit pas beaucoup, qui est pour les personnes âgées, les seniors encore fringants et qui font un tas de choses. Mmh. Et puis, il y a le marché pour ceux qui sont en maison de retraite. Tu parlais tout à l'heure des couches culottes, des fauteuils Everstyle, des montes-escaliers mécaniques ou autre chose dans ce genre-là, qui existent, qui est très développé.
Le Viagra
mais
aussi. Donc.
Pour l'instant, on n'a peut-être pas eu affaire à ce genre de choses, nous, parce que c'est quelque chose qu'on tient éloigné de la vie de tous les jours. Donc, on ne s'en rend peut-être pas compte. Mais écoute, moi, j'ai une amie qui se balade pas mal, qui est journaliste radio et qui est allée se balader en Corrèze et qui a dit, punaise, là-bas, ils sont à la pointe du top de la technologie en matière de, pour s'occuper des vieux, quoi. Alors...
Moi, c'est vrai que c'est...
Pourtant, la Corrèze...
Beaucoup mon interrogation. Il faut anticiper, c'est vrai
avec
que
des gens en retraite,
il n'y
a pas de
jamais.
Travail en Corrèze.
C'est sans arrêt qu'on te propose.
Mais il faudrait anticiper parce que.
Et pourtant, c'est
on va
une
avoir
très jolie région.
On ne pourra pas s'en occuper dans la famille. Il faut s'en occuper.
Il y a ça aussi. Avant, les personnes âgées, les gens les gardaient chez eux le temps qu'il fallait. Maintenant, on s'en débarrasse le plus vite possible. Et puis, c'est pas un reproche.
Oui, mais il y avait une autre vision des choses aussi.
On s'en occupe moins parce qu'on a plein de choses à faire. Il y a des structures pour s'en occuper.
Mais il y avait une autre vision des choses.
C'est caché, donc on les voit plus. Voilà. Ils restent enfermés.
Non, mais David, même, il y avait une autre vision des choses.
Ceux qui sont en pleine forme, on les voit, on les croise dans la rue.
Oui, on les voit à 6h à la caisse.
On les voit à la télé.
Dans les magasins. Ils avancent pas.
C'est ce que tu dis. Il y avait une autre vision des choses.
Il suffit d'aller à Vincennes pour voir qu'il y a plein de vieux en bonne santé, par exemple.
Ils ont toujours plein de centimes quand ils arrivent à la caisse, en plus.
On s'arrêtait de travailler. On était, effectivement, c'est la famille qui s'occupait de vous, mais une fois qu'on s'était arrêté de travailler, en général, on mourait relativement rapidement. Parce qu'on s'arrêtait de travailler parce qu'on ne pouvait
plus. Parce qu'on ne pouvait plus, mais en gardant un souci aussi d'être utile pour les autres. Moi, je viens de finir un bouquin comme ça qui parle justement des paysans juste à la fin du 19e siècle. Et le grand drame du paysan qui raconte donc sa vie de sa naissance jusqu'à ses derniers instants. Enfin, il a 80 et quelques balais, pas loin de 90 quand il arrive à la fin du truc. Mais il le dit, sa grande hantise, c'est le moment où il ne pourra plus être utile à sa famille. Oui, et là, il est vieux, il a 80 ans, il continue d'aller dans ses champs et sa trouille, c'est le jour où il ne pourra plus aller dans ses champs et qu'il deviendra
ils le font toujours, les paysans. Moi, j'ai de la famille, ils sont paysans. Mon grand-père, il est allé dans les champs tout le temps qu'il a pu. Il n'y est plus allé quand il pouvait vraiment plus. Et encore, il allait encore quand il y avait les veaux qui naissaient, il allait voir. Mon oncle, qui est plutôt jeune, c'est ses enfants qui s'occupent de la ferme. Eh ben, il s'est fait construire une maison juste à côté pour pouvoir mettre le nez dedans tout le temps. Enfin,
mais regarde, si tu veux, tu gardes une espèce de fonction, tu gardes une utilité
du début à la fin.
Mais alors justement, ils vont être de plus en plus nombreux. Il faut effectivement les occuper. Il faut. Et en plus, dernièrement, on nous a quand même demandé de travailler quelques années de plus. Mais sans se préoccuper du fait qu'à 50 ans, les gens de 50 ans qui cherchent du travail, ils n'en trouvent pas.
Ça va sûrement changer. Il y a des pays où ça évolue.
Il va falloir, en France, ça devient difficile.
Il y a des associations qui se créent, enfin, petit à petit. Ça va peut-être évoluer, il faut espérer, de toute façon, il va bien falloir, parce que ça va péter.
Hein. Il faut qu'il y ait plusieurs choses qui s'imbriquent. En fait, il ne faut pas prendre en compte qu'un seul type de population, il faut prendre en compte des types de population et les choses qui vont avec. Effectivement, à 50 ans, on ne trouve plus de travail parce qu'on est considéré comme étant vieux. Ouais. C'est ce qu'on dit, moi j'ai déjà vu le cas, tu te retrouves à la retraite, enfin, une retraite anticipée, t'es viré, t'as 54 ans. T'as commencé à travailler à 16 ans, c'est souvent ce qui se passe effectivement pour les gens qui ont cet âge-là en ce moment. On t'explique bien gentiment que c'est pas la peine de toute façon de rechercher du travail parce que on va te calculer ta retraite sur les deux dernières années. Voilà. Ou alors vous avez déjà tous vos trimestres, vous pourriez être à la retraite, mais vous n'avez pas l'âge de la retraite, donc en attendant, tournez-vous les pouces et puis vous êtes payé à rien faire. Donc il faut restructurer, pas forcément seulement en fonction de l'âge, mais aussi en fonction d'un tas de choses. Voilà.
Bah de la durée de vie peut-être en globalité parce qu'on va être confronté à un gros problème. Je trouve bizarre, et c'était essentiellement ça mon interrogation, je trouve bizarre qu'on ne réagisse toujours pas. Alors quand je dis on, c'est le pays entier, c'est les autorités.
Je pense qu'en fait, sans s'en rendre compte, on y réfléchit pas mal. Parce que si moi, je regardais là, en réfléchissant sur le cinéma, il y a des films pour les vieux, il n'y en a pas vraiment, mais des films pour les vieux à proprement parler, comme des émissions pour vieux, il y en a, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a. Mais en revanche, des histoires qui parlent de vieux, des vieux qui sont mis en scène. D'abord, les vieux acteurs, ils continuent de tourner. Hein. Moi, j'ai remonté un truc là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christopher Lee, qui a quand même 83 ans. Hein, c'est le comte Dooku, c'est Saruman, il est dans Charlie et la chocolaterie, enfin bref quoi. On a aussi en France, on a Esther Gorintin qui a commencé à faire du cinéma à 85 ans. Donc ces gens-là, en fait, on les implique énormément dans le cinéma et ils sont pas nécessairement que des seconds rôles. Ils peuvent avoir vraiment une place.
Et t'as trouvé un film avec une vraie histoire
avec
de
des vraies histoires
âgées.
De vieux. Ouais, j'en ai au moins trois.
J'en ai au moins les vieux de la vieille.
Ça, il y a longtemps que ça existe.
Oui, mais ça, c'est vieux. Moi, je te parle de films récents. C'est vrai, ouais.
Moi, j'ai des films récents qui sont fantastiques. Avec... Oui, mais avec l'espoir qu'ils rajeunissent aussi.
Ce sont des films récents qui parlent de vieux. Et alors, un suisse qui s'appelle Au Sud des Nuages, qui prend. C'est un groupe de quatre amis suisses qui, tous les ans, partent, en fait, font une grosse cagnotte, et puis là, pouf, en général, ils partent. Et là, ils ont une cagnotte qui est énorme et ils décident de partir en Chine. Et en fait, il y en a un qui part pas parce qu'il meurt avant le voyage. Il y en a un, et puis il y en a un qui part et puis qui revient, il y en a qui reviennent, etc. Il y en a qui ont des coups de blues, il y en a un qui meurt en revenant juste après le voyage. Enfin, on suit un peu comme ça ces parcours-là, quoi. Et ça leur a pas fait peur de se montrer comme ça. Et il y en a un qui vient d'être présenté à Cannes aussi, des frères Larieux, qui s'appelle Peindre ou faire l'amour. Où Daniel Auteuil joue justement un type qui se retrouve, je ne sais plus s'il est à la retraite ou en frère traite.
En frère traite, il joue un rôle de son âge.
Voilà.
Et Nelly, Monsieur Arnaud.
Il a beaucoup choqué au départ.
Il a son âge.
Nelly, Monsieur Arnaud.
Nelly, Monsieur Arnaud.
Oui, oui, oui.
Space Cowboy.
Une hirondelle ne fait pas le printemps avec ses roses.
Avec ses roses, voilà.
Oui, mais alors c'est toujours le vieux, effectivement.
C'est toujours ses roses, il n'y a pas de bol.
Attendrissant.
Non, parce qu'au sud des nuages, ils ne sont pas attendrissants du tout. C'est les bons vieux bourrus, les bons Suisses qu'on sent bien fermés comme des bons Suisses.
Aussi, il faut montrer. Enfin, il n'y a pas les vieux d'un côté où on ferait des films que sur les vieux et les jeunes de l'autre. Et puis, c'est le mélange. Il faut mélanger toutes les classes d'âge.
Parce que peut-être que les jeunes, effectivement, ils n'ont pas encore vécu.
Et puis ils n'ont pas envie de voir des
donc,
vieux.
Donc, effectivement, ils sont arrêtés. Alors que le vieux, il se retrouve dans des tas de cultures.
J'en suis arrivée au fait que, si tu veux, il y avait vraiment le film pour public jeune. Ouais. Vraiment, un film d'action, hyper bourrin, etc., etc. À l'occasion, les dessins animés pour jeunes, et encore, ça dépend, parce que quand ils sont en VO, c'est bourré d'adultes. Et après, il y a tous les films qui sont beaucoup plus calmes, qui demandent de la réflexion. Et là, le public est très, très mélangé. Ça nous est arrivé juste une fois où on s'est retrouvé avec Numa dans une salle où la majorité était cheveux blancs. On devait être sur une salle de 50 personnes, si on était 10 jeunes. C'était beaucoup.
Il y a le film X de 18 à 77 ans aussi.
Il y a quand même un truc
plus
aussi
pour les hommes
qu'on peut constater
pour les spectateurs que pour les acteurs.
Oui, c'est vrai.
Il y a quand même un truc au cinéma qu'on peut constater, parce qu'on a tous des grands-parents, où il y a des films que de toute façon ils n'iront pas voir, Parce qu'il y a trop de personnages qui les confondent.
Oui, oui, ah, mais c'était incroyable. Nous, le...
y a surtout ça, les films américains, le film, même quand voilà. on est jeune, non, ils, ont voilà. la, ils ont tous la même gueule, les acteurs.
Ah non, mais attends, non, mais formidable.
Donc il y a quand même une cible.
Ah, voilà. Young,
le film qu'on a vu où il y avait un maximum de vieux, on s'est retrouvé quand même avec des gens derrière nous et c'était extraordinaire. C'est La Petite Chartreuse qui est l'adaptation du livre de Pierre Péjus qui est
prêt,
qui
a été pris. Profite du débat pour placer tout et tout.
Qui a été pris films, inter, hein. Qui a été c'est pris inter fou. En 2003. Parce qu'on m'a demandé de parler des films.
Oui, oui, bah du coup t'embrailles. Hein, en quart de tour. Hein.
Et donc on a vu bon bah comme une séance normale avec des bandes annonces etc. avec des films en anglais etc. Et le film La Petite Chartreuse se passe aux alentours de Grenoble et tout se passe vraiment à Grenoble, avec un acteur belge, c'est extrêmement français, et ce qu'on a entendu derrière nous, à la fin du film, c'était extraordinaire, c'était « Mais c'était des Anglais ?» Et les autres se disaient « Mais non, c'était des Français !»« Ah mais non, mais vous savez, hein, des fois, les films, ils les doublent, hein, ils les tournent en anglais, et ils les doublent en français !» Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle a mélangé le film et les bandes-annonces.
Ah d'accord.
Ah, c'est gros, c'est vrai.
Donc, donc ça changera effectivement les vieux qu'on a maintenant, vraiment très âgés. C'est vrai qu'ils ont vécu une toute autre époque. C'est vrai que nous, quand on sera vieux, on n'aura certainement pas le même comportement et que on sera certainement plus noyé dans la masse. Enfin moi, c'est ce que je me dis. Et oui, peut-être qu'effectivement il y aura plus ce clivage vieux jeune. Il s'effacera certainement beaucoup plus facilement que actuellement.
Ça dépendra aussi
quoi.
Des jeunes.
Bah, de toute façon, les jeunes, depuis la nuit des temps, parce qu'ils ont retrouvé des textes ou de toute façon, les vieux se sont toujours plaints des nouvelles générations. Toujours, toujours, et pratiquement dans les mêmes termes qu'on entend encore maintenant.
Ah oui, c'était
de toute
mieux
façon,
avant.
C'était mieux avant, ça c'est intemporel. Hein.
Ouais, bah, en fait, c'était mieux quand j'étais jeune.
Absolument.
C'était mieux quand j'étais vivant.
On peut faire plus de choses.
De mon temps.
Mais je crois qu'il ne faut pas les oublier quand même.
Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus si c'est Antilogus et Tretiak ou des proches, qui disaient que les jeunes n'avaient plus ni morale, ni éducation, ni quoi que ce soit, mais qu'ils étaient quand même nécessaires si on voulait qu'il y ait encore des vieux pour dire du mal des jeunes dans quelques années.
Bah c'est parfait. C'est parfait, effectivement. Donc on peut peut-être conclure là-dessus. Hein.
On peut conclure là-dessus.
Voilà.
Donc je pense qu'il a fait vraiment...
J'ai pas compris, mais je suis d'accord.
Avancer les choses... Donc je pense qu'on peut vraiment, mais vraiment, hein, complètement tous s'applaudir.
Oui, bah oui, bravo. J'avais oublié de me le dire, donc bravo.
Continuez, c'est pas encore lancé.
Ça bug ce soir, ça bug.
Oh là là, c'est long. Hein.
Et il fait trop chaud.
La nouvelle formule. Tu peux arrêter ? C'est normal que ça bug toujours au départ, une nouvelle formule. Ouais. Regardez Ferrari.
Donc, et bien voilà, c'était le débat. Donc maintenant, nous allons passer aux petites chroniques. Les chroniquettes, hein, c'est un joli nom.
Les chroniquettes. Hein.
On a un peu de temps, le débat a duré un petit peu moins longtemps que prévu, mais un tout petit peu moins longtemps.
Mais c'est pas grave, mais c'est pas la peine de combler. Lançons.
Non, lançons.
Pas par la fenêtre, ça va faire mal.
Lançons donc, et en plus, pour une fois... Eh ben c'est
eh ben c'est toi qui
c'est moi qui vais commencer par faire une petite chroniquette.
Donc ça c'est tout nouveau, c'est le nouveau voilà. David, le nouveau David fait des chroniquettes.
Donc tu as commencé ta chronique là oui. Où tu meubles.
Donc je vais vous raconter quelque chose d'assez extraordinaire. Figurez-vous que pendant 16 semaines, tous les jeudis soirs, j'étais devant ma télé devant M6 en train de regarder À la recherche de la nouvelle star.
C'est un futur vieux.
Et oui, messieurs, dames. Non, c'est des jeunes qui regardent.
C'est les jeunes qui regardent. Ouais.
Donc, en fait, au début, j'ai regardé parce qu'on m'a dit, tu vas voir, au début, c'est rigolo. Il y a plein de gens qui viennent chanter devant un jury. Il y en a beaucoup qui chantent très, très mal. Le jury se fout de leur gueule, genre des réflexions. Mais vous avez l'expression d'un acteur porno quand il tourne une scène d'amour. Ou j'ai une attachée de presse, quand elle chante bourrée, nue sur la table, elle le fait mieux que vous. Enfin voilà, les gens se font... Donc je me suis dit, je vais commencer. On aimerait voir.
En plus, c'est pas vrai. 16 semaines.
Oui, 16 semaines, oui.
Et ben il est tombé dedans. Et voilà. C'est le principe de la télé-réalité.
C'est le principe. Mais justement, donc ça commence. J'ai commencé à regarder ça, j'ai bien rigolé. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu plus loin, où on a les gens qui ont été sélectionnés, qui sont censés bien chanter, faire des trucs et tout. Et puis finalement, je suis vraiment tombé dedans. On peut se dire, qu'est-ce qui fait pour qu'on tombe, on tombe dedans? Bah, d'abord, c'est une compétition. On commence à sympathiser, entre guillemets, avec les...
Avec les
candidats. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Il faut peut-être préciser, parce que je vais un peu vite. À la recherche de la nouvelle star, c'est un radio-crochet géant qui se passe à la télé, donc on pourrait appeler ça un télé-crochet, et qui dure donc 16 semaines. Il y a plein de gens qui viennent passer une audition, et à la fin, il ne doit en rester qu'un.
Quand tu dis géant, c'est parce que ça englobe la France entière?
La France entière,
c'est
ils
énorme.
Font, ils font le tour de plusieurs
villes.
Il y a 20 000 gens... Il y a 20 000 gens qui viennent...
Et ils prennent pas le Benelux?
Si, ils vont en Belgique aussi et tout. Donc, et en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis fait prendre dans le jeu de la compétition. Je me suis fait prendre dans le jeu de la compétition. Et en plus, il y a d'autres choses qui sont pas mal dans cette chanson. Parce qu'effectivement, le jury qui est composé de Maria James, une chanteuse, Manu Katché, un batteur, Dovatia, qui est un producteur, et puis André Manoukian, qui est... aussi musicien des
clous,
voilà.
Entre autres.
Je trouve qu'ils choisissent plutôt pas mal les gens, donc ils choisissent des gens qui chantent quand même plutôt pas mal, ou qui ont un univers très particulier. Donc après, ces gens-là, ils passent à la télé tous les jeudis soirs, ils chantent une chanson au début, après ils en chantent plusieurs, moins ils sont nombreux, plus ils chantent deux chansons. Et là, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est, la première chose, c'est qu'ils chantent en direct avec un vrai orchestre, ce qui maintenant à la télé est quand même relativement très très rare.
Oui,
même
tout à
chez
fait.
Michel Drucker.
Oui, même chez Michel Drucker, on le fait pas. Il y a Taratata.
Oui, qui a repris.
Qui a repris sur la TNT.
Oui. Oui, non, sur la 3.
Sur la 3, oui.
Sur France 3, un samedi par mois.
Et donc, en plus, on leur demande, donc ils chantent des chansons qui, ils font des reprises, mais on leur demande de mettre vraiment leur âme, leur univers, et donc ça donne des versions assez intéressantes, et ce sont quand même des gens, je le répète, qui chantent plutôt pas mal. Donc, on peut noter, par exemple, les quatre demi-finalistes. Il y en avait un qui s'appelait Mervin, qui était belge, c'était un noir avec un coiffé style manga, qui avait une voix très aiguë, une énergie affolante. Je pense que lui, on en entendra parler. Il y avait un certain Roland qui, lui, était le gros, grand pro, un type qui chante dans des baloches depuis des années. Il a une maîtrise absolue. Il nous a chanté des trucs de U2, Police, sans avoir honte, et vraiment quelque chose de grande qualité. Il y avait un type qui s'appelait Pierrick, un jeune, écorché vif, genre grunge et tout, donc qui chantait pas spécialement très très bien, mais qui avait un univers vraiment très particulier. Il nous a fait une version de Comme d'habitude qui était très intéressante. Moi, j'aimais pas trop ce type-là, mais cette version de Comme d'habitude, il l'a complètement, comme disait Maria James, c'est la Tour Eiffel, il a démonté la Tour Eiffel, et il en a fait un truc complètement à sa sauce. Et il y avait une fille qui a gagné, c'est Myriam, qui est vraiment ce qu'on appelle une grande voix, à la Céline Dion, tout ça, donc on aime ou on n'aime pas, mais en plus, elle a un groove, elle a quelque chose, elle est aussi bien capable de chanter du Céline Dion que de l'Anastasia, donc elle a une grande voix, et en plus, elle a sali un petit peu, elle a du groove, c'est un peu rock, c'est un petit peu... Enfin, c'est très particulier, et c'est vraiment... Moi, je suis très content qu'elle ait gagné, je pensais pas qu'elle ait gagné, parce qu'en plus, elle est mignonne, et comme c'est beaucoup les filles qui votent pour ce genre de truc, je me suis dit, elle a une tête un peu genre, je te pique ton mec...
Bah, c'est la première fille,
ouais,
la nouvelle star.
Fille qui gagne.
Contrairement à la Star Academy, où c'était des toujours des filles.
Donc,
ouais, c'est la nouvelle star, il y a eu combien d'éditions?
J'espère que les producteurs et les compositeurs feront bon usage de cette jeune fille et des trois autres, parce que je pense aussi qu'ils vont réussir. Je suis très content d'avoir regardé cette émission. Je sais pas si je la regarderai encore pendant 16 semaines l'année prochaine, mais je regarderai un petit peu, parce que c'est très agréable, c'est une très bonne émission de variété. Finalement. Voilà.
Ouais, mais fais gaffe, hein, parce que comme disait Ariane, regarder les émissions de télé comme ça, là, pendant 16 semaines,
c'est
et tout, c'est pas la voix du vieux.
Télé-réalité, on parle très peu de leur vie, on les voit pas vivre ensemble.
On les voit que chanter. Ils font
un
spectacle,
un
en fait, le jeudi soir.
Et l'année prochaine, si je vais chanter La Cerise, tu regarderas.
C'est pas sûr que tu sois sélectionné ou si dans les.
Par contre, voilà, tu seras dans le bêtisier. Ça, y a pas de souci.
Ça, c'est assez rigolo aussi. Donc. Voilà, c'était fini, vous pouvez m'applaudir.
Allez, hop.
Vous devez si vous voulez revenir. Donc maintenant, nous allons passer à Ariane qui va nous parler des éventails.
Oui, ouais, t'en as pas un là parce que moi je crève de chaud.
De toute façon, ça sert qu'à brasser de l'air chaud. Donc en fait, pareil, moi j'ai regardé La Nouvelle Star, il a bien fallu, et dans La Nouvelle Star, on voit souvent Marianne James avec un éventail. C'est ce qui m'a donné envie un petit peu de me pencher sur le sujet. Alors d'abord, c'est un accessoire très... Moi, je trouve ça très classe. Ça fait un peu...
Oui, moi, j'aime bien aussi. Oui, c'est très classe.
Ça vaudrait le coup d'être remis à la mode, un petit peu comme le fume-cigarette ou comme un tas de choses complètement inutiles, mais très jolies à regarder. Donc, l'éventail... Alors, je vais la faire un peu histoire, parce que c'est quand même ma partie.
Ah bah oui,
c'est le truc que ma maman utilise là à partir d'aujourd'hui. Alors, quand tu dis que c'est très inutile, très joli à regarder...
C'est inutile, ça brasse de l'air chaud. Tu dépenses beaucoup d'énergie pour brasser de l'air chaud.
Oui, tu dépenses l'énergie que tu transformes en chaleur. Voilà. C'est bien.
Donc, les premiers...
Mais c'est pour ça qu'avant, il y avait des esclaves pour le faire.
Voilà, c'est comme ça, c'était eux qui avaient chaud. Donc, les tout premiers éventails, on en retrouve très très loin, mais les premiers éventails, en fait, étaient des matériaux qui n'étaient pas travaillés. C'est-à-dire, ça pouvait être une omoplate de bestiole, ça pouvait être une feuille de palme, ça pouvait être absolument n'importe quoi. C'était pas travaillé, c'était brut de décoffrage. Ensuite, on a commencé à travailler un petit peu les éventails, notamment, alors, on va dire en Asie, et chez les Japonais, et puis après, bon, ça a dû tomber un petit peu en désuétude, sauf dans certaines cultures. C'est-à-dire qu'il y a un côté culturel et puis il y a un côté mode. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, mettons le 18e, tout le 18e,
bah,
tout le 18e et le 19e siècle avaient des éventails, on va dire de parade. Il y avait tous les codes qui allaient avec, alors fermés, ouverts sur le cœur, sur la figure, pointés, etc. Donc là, c'était plus un phénomène de mode. Mais il y a aussi, oui, des cultures qui sont très, très éventails. C'est-à-dire, on a notamment les Japonais et toutes les cultures hispanisantes, on va dire. Voilà. Chez les Japonais, c'est très intéressant parce qu'on trouve... il existe même des éventails de combat. Il paraît qu'on peut égorger quelqu'un avec un éventail, mais c'est quand même très, très...
Si tu mets une lame de rasoir... de karaté et j'ai vu...
Si tu mets une lame de rasoir au bout...
des choses comme ça.
Non, avec le tranchant, enfin, ça dépend. Il y a des sortes de parades, des façons de faire.
Oui.
Voilà. Donc aujourd'hui, on ne voit plus grand monde avec des éventails, à part effectivement des danseuses de flamenco, quoi qu'elles ont plutôt souvent des castagnettes, les Japonais quand ils font
ça
certaines choses.
Aussi.
Mais moi, je pense que je vais me mettre à l'éventail, effectivement, même si ça brasse de l'air chaud, je trouve que
c'est... Mais mon ordinateur, il plante à chaque fois qu'elle est sur le point d'en acheter un.
J'essaye de me commander. J'ai trouvé un site espagnol, effectivement, pour commander.
Oui, parce qu'en Espagne, c'est pas une question de mode, elles en ont.
C'est culturel.
C'est comme par hasard.
Les Espagnols, c'est culturel. Ouais.
Non, mais tu dis que l'éventail brasse de l'air chaud, mais c'est pas crétin. Parce que si tu veux, moi, je me souviens de mes cours de médecine et le prof de physio nous avait dit, rien ne sert de transpirer, il faut évaporer. Et en fait, quand tu transpires, tu as chaud, tu transpires. Tu prends ton éventail et tu évapores. Et tu évapores, donc tu régules ta température.
C'est
efficace.
Ça fait bien quand même. C'est quand
la
même.
Preuve. Ça y est, il faut pas.
Je viens d'inventer la chroniquette
éventail.
Et si c'était inutile, les éléphants d'Afrique, ils feraient pas ça avec leurs oreilles.
Mais c'est aussi pour chasser les mouches.
C'est aussi pour chasser les mouches.
Oui, mais ça rafraîchit
aussi.
Oui, parce que les éléphants d'Asie n'ont pas besoin de grandes oreilles.
Ça permet une meilleure évaporation et tu te rafraîchis plus en évaporant.
J'ai trouvé quelques sites. Donc pour commander des éventails, donc c'est soit absolument hors de prix parce que ce sont vraiment des trucs de mode qu'il faut commander aux États-Unis c'est fabriqué je sais pas où, c'est des machins.
Non, mais chez Tang, ils en ont des
euros, oui, mais tu vas chez Babou, t'en as.
Mais tu vas chez Tang, ils en ont des très jolis.
Mais je veux un éventail qui se plie, je trouve
mais
ça beaucoup plus joli.
Mais chez Tang, tu as des éventails qui se plient.
Bah tu découpes un morceau de parapluie et tu vas nous emmerder avec tes éventails.
Je vais quand même continuer à essayer d'en commander sur ce site internet qui est un site espagnol.
On te rapportera un joli éventail Tang.
Qui ramènera. En Espagne, t'en trouves partout. Hein. Pour les touristes, ils en vendent à tous les coins.
Oui, mais moi, je veux pas un machin touristique. Je veux un truc assorti à ma robe pour le mariage de mon copain Raon. Voilà, c'est tout.
Il est comment ton éventail? Il est pour rose
à ma robe. Très très bien, même pour les touristes. C'est pas parce que c'est pour les touristes que c'est.
J'entends bien. Bon,
c'est pas parce que le tourisme de Lourdes. À mon avis, tu vas avoir un super éventail.
Dès que je pourrai en commander, je vais me mettre à l'éventail. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a une certaine classe quand même.
Bah écoute, je te suivrai bien.
Et puis si
surtout,
ça continue, je me mettrai peut-être au fume-cigarette. Voilà.
Voilà.
Oh non, ça fait pétasse.
Oh si, ça fait très classe.
Et alors, elle est très bien déjà, elle a
les doigts qui puent pas.
Ça fait très pétaclasse.
Je n'osais pas le dire.
Hors sujet.
Voilà. Donc voilà, bah très bien. J'ai trouvé que toi, quand tu parles 5 minutes, ça passe beaucoup moins vite que quand c'est moi. Et c'est sûrement une question de point de vue, donc vous pouvez l'applaudir quand même. Surtout, pourquoi quand même ? Donc maintenant, nous allons passer à Craig, qui devait passer avant Ariane, mais comme on n'avait plus rien à boire inconsciemment, j'ai sauté.
Ouais.
J'ai sauté Craig.
Ah, pardon.
Donc Craig, toi, tu vas nous parler de la leçon de piano.
Vous parlez des pianos, mais bon, je vais essayer d'y venir, mais je vais y venir par deux voies un petit peu indirectes. Alors, est-ce qu'il vaut mieux servir aux auditeurs des chroniquettes ou alors des chroniques bien fraîches? Moi, je me pose la question, parce que...
On ne sait pas.
L'avantage des croquettes, des chroniquettes, c'est que normalement, elles sont dosées pour être plus proches des besoins de l'auditeur, alors que les chroniques fraîches, des fois, peuvent être beaucoup plus lourdes. Enfin bon, bref. Cette fois-ci, en tout cas, puisqu'on me demande, je vais faire une chroniquette.
Bah oui.
Voilà. Donc, je l'ai tiré d'un fait divers, du printemps d'ailleurs, du printemps de cette année. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Alors là, il n'y a plus personne qui m'écoute. Ils sont tous en train de s'amuser avec
des
pseudo-mémentos.
Béa nous donne une démonstration pas classe de l'éventail. C'est indescriptible.
Mais bah, si, c'est, elle fait l'éventail sous les bras. Hein, donc, tout le monde en profite, du coup, c'est super. Enfin, bon, bref, c'était donc l'histoire d'un mec... qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Ohé, ohé, capitaine. Abandonné.
Voilà, faut vraiment m'excuser. Tu te prends pour la nouvelle star?
Non,
mais. C'est pas parce qu'on te regarde pas qu'on t'écoute pas.
Hein. Oui, voilà, donc j'essayais d'attirer votre attention.
Il y a des moments quand ils chantent, on essaye de décrocher un peu.
C'est la fin de la semaine, bon, faut me pardonner, c'est comme ça. Voilà, alors donc le mec, eh ben, le mec, tout mouillé, le mec. On l'a retrouvé tout mouillé, comme ça, dans la rue. Ça se passe en Angleterre. Un mec, plus de mémoire, plus rien, la carte mémoire effacée. Impossible de savoir qui c'est. Impossible de trouver qui c'est. Et le mec, il parle... Alors, il fait quand même un anti-saxon de base, parce que incapable de parler anglais. C'est quand même pas normal, ça. Tout le monde devrait être capable de parler anglais. Alors, ils sont sidérés, impossible de communiquer avec ce mec. Puis en fait, non seulement il parle pas anglais, mais il parle aucune langue. Impossible de trouver l'origine de ce mec. Donc, ils ont retrouvé un mec, comme ça, complètement amnésique, et aucun moyen de retrouver qui c'est. Alors... Il était habillé quand même, mais par contre, tous ses vêtements avaient les étiquettes coupées. Donc, impossible de savoir la marque des vêtements. Alors, pourquoi toutes les étiquettes de tous ses vêtements étaient coupées? Ça, ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Donc, c'est assez rigolo. Et ce qui est marrant, c'est que le seul moyen de communication qu'ils ont trouvé pour dialoguer avec ce mec, c'est qu'ils ont fourni un papier et un crayon. Et le mec, la première chose qu'il a fait, aussitôt, c'est qu'il a dessiné un piano à queue. Il a dessiné un piano à queue. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené le mec devant le piano, parce que ça devait être probablement un hôpital privé ou plus ou moins lié à l'église, parce qu'il y avait une chapelle, et donc il est allé jouer sur le piano de la chapelle, et il se trouve que cette amnésique totale, qui est incapable de parler le moindre mot dans aucune langue,
joue super bien du
joue
piano.
Super bien du piano, c'est un virtuose du piano. Et ce qui m'a interpellé dans cette histoire, et puis voilà où on finit par revenir à ce qui m'intéressait, c'est que finalement il a dessiné un piano à queue. Alors là je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'un piano à queue? Et alors là je me suis rendu compte qu'il y a plein de sortes de pianos.
Alors, il y a le quart de queue.
Déjà, oui, mais alors je vais y venir, mais déjà il y a des pianos qui n'ont pas de queue. Des pianos droits, des pianos femelles sans doute donc. Il y a des pianos, comme tu viens de le dire, quart de queue. Alors c'est complètement illogique parce qu'on s'attendrait à ce qu'un quart de queue fasse le quart d'un queue, pas du tout. Un piano à queue fait 3 mètres de long, alors qu'un quart de queue fait 1,80 m, c'est-à-dire plus de la moitié. Voilà. Donc il existe un moindre mal, le 3 quarts de queue. Sinon, le piano à la plus petite queue se nomme le piano crapaud.
Alors je le connais.
Les crapauds
nous écoutent.
Les crapauds apprécieront d'avoir leur propre type de queue. Enfin, pour les amateurs, il existe les pianos girafes à queue verticale. Voilà, donc j'en ai fini avec
impressionnant.
Mon histoire. Alors oui, parce que le pianiste de tout à l'heure, il joue super bien. Ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai inversé mes paragraphes, désolé. Voilà. Alors donc, ce pianiste, impossible de trouver qui c'est.
Machination.
Est-ce que c'est une machination? J'en sais rien. Toujours est-il que la même semaine, une histoire complètement inverse s'est déroulée. C'est-à-dire qu'il y a une bonne femme qui a pris le ferry. Je ne sais plus si c'était entre la France et l'Angleterre. Je crois que c'était entre la France et l'Angleterre. Elle a subitement disparu. C'est-à-dire que elle était dans sa cabine et on a tout retrouvé. Et hop, elle a disparu. Il y avait toutes ses affaires, tout. Personne ne l'a vu se jeter par-dessus bord. Il y a eu plein de recherches qui ont été faites et elle a complètement disparu. Alors moi, ça a fait qu'un dans ma tête. Moi, j'ai lu les deux histoires quasiment dans la même heure sur Internet. Je me suis dit, ça y est, je vais écrire un bouquin. Là, j'ai le sujet de rêve, mon piano à queue et ma bonne femme qui disparaît.
ta bonne femme.
Bah oui, la bonne femme qui a disparu, là, que je raconte.
Pas la tienne.
Ah non, c'est pas la mienne qui a disparu.
Parce que là, on l'a pas vue.
Non.
Elle a disparu.
Oui. Mais c'est pas la même. Enfin bon, bref, peu importe. Et alors, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, je vais écrire un roman policier du feu de Dieu, je vais gagner le prix Pulitzer, peut-être. Enfin bon, bref.
Ah bah, dépêche-toi.
Voilà. Et bah oui, j'aurais dû me dépêcher. Parce oui, que figure-toi que le lendemain.
L'histoire, là, du gars, là, du pianiste. Bah ouais.
Il y a un producteur hollywoodien qui cherche à l'acheter.
Bah oui.
Il y a un producteur d'Hollywood qui achète les droits et qui compte faire un film sur cette même histoire. Alors moi, je trouve ça franchement dégueulasse. Pour une fois que j'avais une super idée de pouvoir faire un super bouquin.
C'était trop long. Voilà.
Donc du coup, eh ben, je me venge. J'écris une petite chroniquette comme je peux sur les pianos à queue ou presque queue. Et je la ferai jamais lire au méchant producteur. Voilà. Et toc.
Ben bravo. Donc maintenant, nous allons passer sur Béa, qui va nous parler de l'homme...
L'homme qui voulait passer à la télé.
Voilà.
Alors, c'était un divertissement qui est passé mardi dernier à 20h50 sur France 2 et qui était entre autres écrit, produit, enfin en gros dirigé par Pascal Légitimus. Donc cet homme, Pascal Légitimus, ne vous est pas inconnu, puisque personne n'a oublié les fous rires passés il y a une dizaine, quinzaine d'années devant la télé des Inconnus. Donc les Inconnus, trio composé par donc Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan, qui s'amusaient à parodier la télé. Et ces programmes sont devenus cultes maintenant, tout le monde les connaît par cœur. Donc c'est ce qui m'a intéressé, j'ai dit je vais regarder le nouveau truc en espérant y retrouver l'esprit des Inconnus. Donc parodie des émissions de maintenant. Alors d'abord, j'étais un petit peu surprise, parce que je m'attendais à une émission classique, quoi, une succession de sketchs, plus ou moins bien présentés. Et en fait, pas du tout, ils ont fait l'émission sous forme d'une fiction. Ils racontent l'histoire d'un jeune Toulousain, qui est joué par Romain Vissol, que vous connaissez peut-être si vous vous rappelez de la pub de Neuf Télécom. C'est assez remarquable par son débit très important. Ce jeune Toulousain monte à Paris chez son cousin, un coiffeur de star gay, évidemment, donc qui est joué par Pascal Légitimus.
Qui est gay, le coiffeur ou les stars ?
Le coiffeur. Bah, il y a beaucoup de stars aussi, mais le coiffeur.
Ne tombons pas dans le cliché. T'es tous des PD.
Faut pas dire PD maintenant.
Ah oui, merde, on va avoir un procès.
Ah bon ?
Ah bah oui.
Tapette ?
Bah moi j'ai dit gay. J'ai dit gay. Donc ce jeune Toulousain monte à Paris pour essayer de travailler à la télé, ce qui est donc l'occasion de parodier quelques émissions, comme par exemple Tout le monde s'en branle, À la recherche de la nouvelle tare, c'est pas mal aussi, Trop sous le soleil, enfin bon, etc., etc. Alors après, en ce qui concerne le fond, je dois dire que j'ai été quand même un petit peu déçue. Je n'ai pas vraiment ri. Et j'ai même failli m'endormir. Enfin, c'était peut-être plus dû à une grosse journée de travail qu'à l'émission en elle-même. Mais bon, c'était pas extraordinaire.
En tout cas, t'as pas réveillé, quoi.
Non. J'ai même lutté pour l'avoir jusqu'au bout. Je devais être très fatiguée.
Mais t'aurais dû venir avec nous, parce que nous, on a bien ri, hein, Cré, mardi soir.
Ah oui, ça, oui. Je suis pas sûr que c'était très drôle, mais nous, en tout cas, on rigolait.
Pardon.
Oui. Donc, il y avait quand même quelques petits détails amusants, comme par exemple la chaîne de télé... pour passer les pubs, qui s'appelait France Canal Cap TNT Numérique. Je trouve ça pas mal, hein, ça résume bien dans quoi on vit actuellement. Ou la parodie de Thierry Ardisson par Bruno Salomon, il maîtrise bien son sujet, il le fait très très bien. Et un acteur en face, je connais bien sa tête, mais je n'ai donc pas retenu son nom, qui faisait Baffy, bien senti aussi. Ou autrement, il y avait une espèce de parodie de Navarro, mais jouer avec uniquement des textes de pub.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Comme par
ça,
exemple,
c'est bien. Parodie Navarro,
vous avez des nouvelles de comment s'appelle, de Bonjour, l'ami du petit déjeuner. Enfin, tout ça était lié dans le texte, c'était joué par Jean-Marie Bigard, donc très bien joué. Il y avait aussi beaucoup de comédiens de la Ligue d'improvisation, donc c'était très bien joué. Ils ont dû sans doute beaucoup s'amuser à le faire, parce qu'on a quand même vu qu'ils étaient pas loin du fou rire dans Trop sous le soleil, avec l'apparition surprise un peu quand même de Johnny Hallyday.
Bien, c'est pas bien joué, ils ont le fou rire. C'est toi qui dois avoir le fou rire en regardant, c'est pas eux quand ils jouent.
Oui.
Non, c'est pas une leçon de théâtre du
bas. Ils ont bien joué, et virgule, ils ont dû bien s'amuser à le faire.
Ah ben ça n'empêche pas, mais faut pas le montrer.
Mais c'était quoi dans un, ça.
Ah d'accord, j'espère.
Donc voilà, moi j'ai pas, je trouvais ça assez décevant dans l'ensemble. Donc j'attendrai quand même la petite sœur de ce programme-là, qui je connais pas encore la date de diffusion, qui s'appellera La Famille Zappon, sous forme de petite sitcom où toute la famille a plusieurs télés, donc qui est encore l'occasion de parodier les émissions. Donc j'espère que, je sais pas, ce sera un petit peu mieux senti, un petit peu plus agressif et tout simplement un petit peu plus drôle. Pour l'instant, un petit peu déçu. Voilà.
D'accord.
Donc c'était pas les inconnus, quoi.
Bah non, bah. Il était tout seul.
On vous l'a dit, moi, les inconnus, ça m'a jamais fait rire. Bah, je fais partie du peu de gens que les inconnus n'ont jamais fait rire.
Oh, bah, moi, j'allais mourir.
Bah ouais. Moi, je me suis toujours senti un peu seul et exclu. Hein.
D'accord. Ben bah, un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, nous allons passer à Numa qui va nous parler notamment de poèmes phonétiques. Et d'autres choses.
Tu as fait ton choix
Ouais, rapidement, ouais.
Voilà.
J'ai combien de temps?
Bah, comme les autres.
Non, mais je vais passer le reste. Et notamment de Kurt Twitters. Donc, c'est un gars qui est né à Hanovre en 1887 et qui est mort à Londres en 1948.
Il a voyagé un peu.
Ben, un petit peu, parce que comme il était allemand, ça s'est pas très bien passé. Alors, il s'est dit, tiens, je vais aller voir ailleurs. Donc ça fait partie de ces artistes qui ont été montrés, enfin leurs œuvres ont été montrées comme dégénérées.
Mmh.
Voilà, donc bah oui. Il a un petit peu voyagé, il a fait des choses et notamment il a créé un machin qui s'appelle le Merz et qui se situe entre Dada et le surréalisme. C'est assez intéressant.
Mais quand tu dis merde, ça sonne un peu comme merde, c'était volontaire?
Ben non, parce qu'il était allemand.
Mais il n'était pas francophone du tout?
Non. Non, non, c'est.
Mais ça se trouve, ça se dit pareil. Bah, oh merde, alors
oui,
non, c'est voilà. Schweizer.
Ah.
Ah.
Bah oui.
Je sais pas si je suis sur la germanophone.
Non,
je
n'ai
jamais fait d'allemand, mais c'est Schweizer.
C'est
Schweizer. Bon, donc ensuite, ben, pour en revenir rapidement à la poésie phonétique, donc au poème poétique, donc ça a été un petit peu créé par Tsarab, Ball. Comment il s'appelle, Haussmann aussi, qui ont fait ça.
Les boulevards.
C'est très rigolo. Un autre. Ah. Alors donc pour essayer de comprendre, c'est-à-dire que le poème est la fusion de la dissonance et de l'onomatopée. 1-2, je vais reprendre au début. Le poème est la fusion de la dissonance et de l'onomatopée. Le poème jaillit du regard et de l'ouïe intérieure du poète par le pouvoir matériel des sons, des bruits, de la forme tonale ancrée dans le geste même du langage. C'est clair?
C'est clair.
Vous voulez un exemple?
Ouais, vas-y.
Oui.
Bon, non,
rapide.
Alors, c'est une blague.
Mmh.
Alors, je prends au hasard, en fin de compte, c'est là, je vais vous lire un petit passage de Ursonate, ça s'appelle. Donc, c'est un très long poème phonétique. C'est comme un opéra, en fait. Donc, c'est écrit avec plusieurs voix. Donc, moi, je vais le faire tout seul.
Ben oui. Vas-y, on verra bien. Hein.
Alors, ça a fait un truc comme ça. Grim, glim, gnim, bim, bim. 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 Boum, bim, bim, bam, 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 bim, bim. Grim, glim, glim, 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 bim, bim. C'est intéressant.
Oui, mais il doit manquer les autres voix un peu. Mais non. C'est intéressant.
Bah, ça s'apparente plus de la musique.
C'est un message séquentiel informatique.
Le
disque n'est pas rayé au milieu, là.
Non, j'ai fait une petite faute parce que c'est pas facile à lire non plus. Il me reste une minute. Ah, déjà. Oh, ben tant pis pour vous. Donc, je vais être obligé de vous interpréter mon super poème phonétique que j'ai fait.
C'était tout ça pour ça.
Bah oui.
Bah vas-y.
Bah alors, tu vois, faut que je le trouve parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Si ça se trouve, je l'ai pas sorti. Ah si. Oh, manque de peau.
Mais ça se trouve, tu le connais par cœur.
Non.
Non, mais c'est joli.
Comme ça, vous allez
ah
pouvoir.
Ah non, visuellement, c'est super esthétique. Hein.
Comme ça, vous allez pouvoir m'accompagner.
C'est après, t'as un doute.
Il faut donner le rythme.
Vas-y.
Allez.
Alors, d'abord, donc normalement, c'est, on va le dire ensemble.
103-4
Non, non, il suffit de trouver un rythme. On va le dire ensemble. Donc, oui. Donc pour dire un truc enfant ensemble, le but du jeu, c'est il ne faut pas s'attendre, il faut le dire. Et ensuite, on va trouver le rythme tout seul. Voilà. C'est parti.
C'est parti.
Quoi, que. Quoi, que. Quoi. Que quoi.
Tu peux dans le rythme. Hein.
Que. Quoi. Que. Quoi. Pause. Qui que quoi sont-ils.
Bravo.
Tonnerre d'applaudissements.
En fait, c'est peut-être ton poème le plus fourni, le plus écrit que tu nous aies jamais fait.
Ouais, et le plus riche aussi.
Donc nous allons passer maintenant à Flo, qui va avoir très 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 peu de temps pour nous parler de...
Kim Ki-duk.
Donc il va pouvoir nous donner le titre, les acteurs, le réalisateur, et je pense que ça suffira.
Et le pitch. Bon, je voulais vous parler de Kim Ki-duk parce que c'est la sortie de son film Les Locataires. Enfin, il est sorti il y a un mois environ. Il est toujours en salle. Alors Kim Ki-duk, c'est un cinéaste coréen autodidacte qui fait des films vraiment à part, même pour ce qui est de l'Asie. Ça mélange l'humour, la tendresse, la violence. Alors vous me direz, ça ressemble un peu à Kitano, quoique Kitano, il y a pas vraiment la tendresse. Mais c'est extrêmement poétique, c'est très remuant. Nous, on a découvert ça en France avec Printemps, Été, Automne, Hiver et Printemps. Personne ne l'a vu. Bon, tant pis. Non, de Kim Ki-duk. Pas les trucs séparés. Et donc,
j'ai offert le DVD
de Printemps, Été, Automne,
ouais,
Hiver et Printemps.
Je l'ai offert à mon père, mais je l'ai pas.
Tu l'as pas regardé.
Il a adoré le film en fait, donc du coup, je lui ai offert le DVD à Noël.
Regarde le DVD, le film, parce qu'il est vraiment très très beau.
C'est coréen, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et grâce à ce film, en fait, ils sont en train de ressortir tous ses anciens films et les films en ce moment. Et donc, moi, je vous conseillerais là, Les Locataires, qui a reçu le Lion d'argent à la Mostra de Venise. Et alors, vous ne m'embêterez pas en disant que c'est coréen et que vous n'allez rien comprendre parce qu'il n'y a pas de dialogue dedans. Enfin, il y a des dialogues, mais le héros ne décroche pas un mot de tout le film. Tout se passe par des expressions sur son visage qui vont de la colère à la joie, etc. Non, ça n'a rien à voir non plus.
C'est du Delon.
Non, c'est extrêmement beau. C'est extrêmement poétique.
La seule, l'unique.
c'est l'histoire d'un jeune homme très instruit qui a décidé de vivre en marge de la société et qui dort chaque nuit dans un appartement inoccupé. Et pour ça, il passe sur les appartements, ça vous fait réfléchir aussi pour chez vous, il pose des plaques genre pizza, machin, etc. Enfin, téléphonez, vous avez une pizza. Et il repasse plus tard et toutes les plaques qui n'ont pas été enlevées signifient que l'appartement est vide. Donc là, il prend sa mallette, il ouvre, crac, il rentre et s'installe chez les gens, prend des photos comme s'il vivait avec eux, enfin bref. Fait la vaisselle, fait la lessive, répare les objets cassés, etc. Enfin bref, vit... La seule trace de son passage, c'est que tout marche quand il s'en va. Et un jour, il rentre dans une maison et il tombe sur une jeune femme, en fait. Il pense à la maison vide et il découvre qu'il y a cette jeune femme. Et donc, va se lier une histoire avec cette femme. Et on va les suivre, justement, dans leurs péripéties. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a un moment, ça peut pas continuer comme ça. Il y a un moment, ça coince.
Donc, on ira l'ouvrir.
Voilà.
Et on en saura plus. Et c'est très bien.
Et voilà. Et c'est
et
très, très beau.
Heureusement qu'il est ressorti pour qu'on voit tous ces films.
Et voilà. Et c'est très, très beau. Et que quand vous aurez vu Les Locataires, vous voudrez voir Printemps, Été et puis tous les autres films
D'accord.
qu'il a fait.
Eh bien, un tonnerre d'applaudissements pour Flo. Et bien voilà, c'est fini. Donc c'était le quoique
nouvelle formule,
nouvelle vague, non, nouvelle 25, formule. Hein. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou pas. Donc on va, par contre, comme d'habitude, on va remercier Monsieur Yann Beaujouan pour ses jingles buggés.
Merci Yann.
Voilà. Le mois prochain, nous parlerons, comme on avait dit, créer de fanfare à l'occasion d'un événement qui se passera le 7 juillet, c'est bien ça ?
Non, le 9.
Le 9, c'est pareil.
Oui,
où ça ?
Sauf que si tu viens le 7, tu seras
tout seul. Le 14e concours national des fanfares des Beaux-Arts se déroulera dans la cour de l'Hôtel des Beaux-Arts, rue Bonaparte,
à Paris.
Paris 6e.
Donc le débat aura lieu là-dessus, ça sera plus une information, donc on aura des gens qui participent à cette chose-là, à l'organisation, qui viendront nous en parler, enfin on espère. Voilà, donc au revoir à tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Hein, bonne émission, bon mois,
bonne écoute.
Bon référendum.
Oui.
Non.
Votez pour le noui.
Le noui.
À tous les oui-ouistes et tous les non-nonistes,
votez-nous.
Bon mois.